Bonjour à tous, ça va. La présentation va être partagée en trois petites parties. Les deux premières parties, je vais vous parler de mon travail antérieur et le projet que j'ai commencé partiellement à réaliser en Espagne. Et la troisième partie, c'est vers la fin qui va probablement déborder un tout petit peu. C'est une partie où j'ai projeté un petit documentaire de Jean-Daniel Paulet qui s'appelle Bassae, avec laquelle je partage la majorité des points de vue et qui résume, qui est une très bonne synthèse d'une époque que j'ai pleinement vécue en Orient et aussi l'époque de transition entre l'Orient, l'Occident, entre l'Orient et l'Europe, avec toutes les pensées poétiques qui lient les deux. Voilà. Alors, de manière générale, mon travail, il est basé sur la décomposition d'une masse. Ce point de vue a été adopté après une pratique très longue de taille directe, où on débute par la masse générale des matériaux depuis l'extérieur vers l'intérieur, et on cherche une forme, mais dans l'intérieur de cette forme, il n'y a rien. Il n'y a rien d'assez figuré. Il y a la masse de la matière. Donc, par le renoncement au sujet, j'ai opté à convertir cette procédure et à... On peut peut-être fermer la porte là-haut. Donc j'ai converti complètement ce principe de travail de sculpture qui est assez ancien et académique et assez fondamental par ailleurs, à ce que je cherche le vide dans le matériau et non pas la forme dans un matériau. Donc à partir de ce moment-là, je commençais à diviser les formes, donner à l'air sa place dans la sculpture et de donner à l'air sa propre forme aussi. C'est un point crucial dans mon travail parce que là, on commence à distinguer entre forme et contre-forme, entre espace intérieur et espace extérieur à la sculpture et dans la sculpture, autour de la sculpture et dans de la sculpture. Chose qui m'a permis de développer par la suite une partie un tout petit peu performative, mais très très importante dans le travail, c'est celui de la perception de l'espace. Alors, dans la perception de l'espace, il y a plusieurs points très importants. Il y a un espace intérieur qui nous appartient à nous et qu'on le vit, qu'on manipule comme on veut. Il y a un espace extérieur à laquelle on peut appartenir ou pas. C'est une sorte de résistance. Cet espace extérieur est assez souvent, comme on peut le voir ici, divisé par des matériaux, des pièces, des formes. Ces formes, ils ont une sorte d'échange entre formes géométriques, formes biomorphiques, formes très organiques, formes plates, formes pleines, formes vides, courbées, droites, bref. Donc, pour parler de cette sculpture, ça date de 2008 et ça s'intitule Fragmentation. C'est une sculpture que j'ai faite pour deux raisons. À la fois pour ce même principe dont je venais de parler, c'est la division d'une masse et donner à cette terre une autre forme. Et la deuxième raison, qui est un peu plus technique, mais ça reste spatial, c'était une sorte de mise en scène pour une performance de chorégraphie, ou une chorégraphie tout court. C'est une sculpture qui est composée de 17 pièces, dont 5 ne sont pas du tout visibles ici, sur la photo, malheureusement. C'est le cadre en métal, un peu carré et courbé en même temps, qui est au milieu haut de la photo. Dans lequel il y a 7 morceaux de verre découpée en courbe et qui représente la contreforme du carré, qui est au milieu de la photo et qui est revêtue en mosaïque. C'est une pièce qui a été réalisée avec 24 matériaux visibles et non visibles, en tout cas ceux qu'on peut voir ici, d'un côté et d'un autre. C'est du plâtre, du bois, d'acier, de céramique, terre cuite, du plomb, du marbre blanc coupé en mosaïque, de la pierre calcaire, laine de roche, du verre, de résine, de paraffine et de cire d'abeille et de fibre de verre. Alors, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler sur ces principes-là, il y a une confrontation qui s'est imposée, celle des matériaux. D'une manière générale, j'ai jamais aimé évoquer les matériaux techniquement, même si c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire pour la réalisation des sculptures. Mais la juxtaposition et la superposition parfois des matériaux dont on ne se rend pas compte est extrêmement profondément fondamentale, parce que dans ce travail, il y a deux pôles, il y a deux mondes, il y a une sorte de tension énorme entre ce qu'on appelle des matériaux immémoriaux qui sont issus assez souvent de la nature, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est des matériaux très très anciens, comme la terre cuite, le bronze, le fer, le plomb, le marbre, la pierre, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de les confronter avec d'autres types de matériaux qui sont beaucoup plus récents. Et ce qui est intriguant dans ce type de matériaux, c'est que ça a intégré, il a intégré la sculpture, ou le monde de la sculpture, au début de fin 18e, début 19e siècle. Et particulièrement, ce que je préfère utiliser dans mon travail, c'est les matériaux de construction. Béton, terre chamottée, mais pas cuite, laine de roche, des fibres de verre, matière résineuse, et tout ça. Cette tension qui est créée entre ces deux types de matériaux provoque ou suscite des nouveaux vocabulaires. Alors, chaque matériau que j'utilise, par ses propres spécificités physiques ou chimiques, propose un vocabulaire, ce qui nous renvoie à la fois à une phrase qui est équivalente à la sculpture elle-même, et dont les vocabulaires sont ses propres matériaux par leur spécificité, mais également ça nous renvoie aussi à cette tension qui génère autre chose qu'une phrase, qui crée en soi un espace. Donc voilà un petit détail rapproché où on voit, peut-être sur la... Ici on ne voit pas beaucoup. Donc le carré blanc, c'est un mètre carré qui est revêtu entièrement en tesselle de marbre blanc. Donc c'est une mosaïque monochrome. J'ai commencé à m'intéresser à la mosaïque depuis très très longtemps, quand j'étais même encore en Syrie, où je me suis spécialisé par les restaurations de mosaïques. Mais ça s'est arrêté là. À ma venue en France, j'ai découvert la mosaïque sous un autre angle, celle d'une définition autre que la peinture permanente qu'on peut voir dans tous les édifices romains, gréco-romains, un peu partout dans le bassin méditerranéen et ailleurs en Europe, et en Asie et en Orient. Donc, à partir, si on considère qu'à partir d'une définition structurelle de la mosaïque, en la considérant bien entendu en amont comme tout en morceaux, on peut distinguer entre deux pôles qui me permettra d'utiliser la mosaïque de telle manière. Le premier pôle, c'est, pour ne pas mélanger tout, c'est une définition qui a été proposé dans les années 80-90 par un historien de la mosaïque qui s'appelle Lucien D'Alembach. Donc, ces deux pôles très, très importants et très en tension aussi. C'est, le premier, c'est celui de l'unité de l'ensemble. Et le deuxième, c'est celui de la discontinuité de ses composants étant les cubes, les tesselles et les autres fragments, que ce soit des morceaux de terre cuite ou d'autres matériaux. À partir de ce moment-là, l'utilisation de la mosaïque est devenue une sorte de revêtement, de peau, peau pour une surface, peau qui enveloppe un volume. Et là, on s'égare complètement de la définition traditionnelle de la mosaïque vers une signification poétique de cette utilisation morcelée. Donc, dans cette sculpture, ce qui est important à dire, c'est que l'espace entre chaque morceau est de 45 cm, ce qui est un espace suffisant pour qu'un être humain passe perpendiculaire à l'espace des pièces suspendues. C'est-à-dire qu'on est vraiment limité dans cet espace, on est face à quelque chose qui est complètement inhabituel, mais en même temps, on passe d'un endroit pour en découvrir un autre, tout en étant dans le mémoire l'autre endroit qu'on vient de traverser. Après, on passe à cette sculpture qui s'intitule « Contredanse ». Le titre, il vient de Contredanse. C'est une simplification française du mot anglais « country dance ». Mais c'est aussi, ça a aussi une signification d'une danse et contredanse, d'une danse simultanée à deux parties. C'est un érable, c'est un seul arbre que j'ai découpé en cinq morceaux de tronc et que j'ai disposé d'une manière complètement équilibrée, sans aucune fixation sur ce cadre écaille. En bois de charpente, tout basique, mais ce qui m'intéressait là, c'était de redécouvrir une forme géométrique pour rééquilibrer la forme très organique de l'arbre. Chaque morceau de ce bois, de l'érable, a été tronçonné de part à autre, de part à part. C'était évidé de l'intérieur et revêtu de l'intérieur par différents matériaux, par différentes traces des matériaux parfois. Il y a deux morceaux, le petit qu'on va voir plus tard à droite, qui est entièrement revêtu en mosaïque de pierre noire de Belgique. C'est une spécificité du noir de Belgique qui est une pierre extraite de mines souterraines dont la composition ressemble beaucoup à une pierre dont la composition ressemble beaucoup au marbre, mais dont la cristallisation de cette composition s'arrête à un certain moment, donc et c'est une pierre qui est entre la pierre de schiste et ou l'ardoise comme couleur et caractère, et entre le marbre comme profondeur et densité. Les autres pièces, il y en a qui sont vides, il y en a dont j'ai extrait des empreintes. Les formes intérieures à ces troncs sont des formes inspirées par des colonnes. Et là, on commence encore une histoire qui me fascine, c'est les colonnes de cloître et les colonnes en général, de manière générale. Donc, ces quatre formes-là, intérieures dans ces troncs, ont été inspirées directement des cloîtres du 15e, 16e siècle, qui sont préservés dans une annexe de Metropolitan Museum à New York qui s'appelle Cloisters. Et bon, la forme n'est pas exacte, ça n'est pas un document représentatif et illustratif, mais ça l'est un élément sculptural. Alors, comme vous pouvez le voir jusqu'en ce moment, c'est que majoritairement mes sculptures ne font pas un seul objet. Ce sont un assemblage de plusieurs éléments. Parfois les éléments ne sont pas de la même matière, ils sont généralement des matières hétérogènes, recréant un espace particulier à cette sculpture, à ce contexte dans lequel la sculpture a été décidée. Voilà une autre vue. Ici dans la photo qui va venir, on pourra reconnaître la manière d'assemblage, c'est chaque morceau de tronc a été, comme j'ai dit, transformé en deux, évidé et revêtu, et puis recellé par différentes matières aussi liées beaucoup à l'histoire de l'architecture gothique, dont notamment la liaison par le plan fondu entre plusieurs pièces, ce qui a été, c'est une technique qui a été extrêmement utilisée dans la fixation des gargouilles qui sont très en hauteur dans cette architecture. D'autres ont été scellés par la barbotine et la colle blanche, d'autres avec de l'époxy. Donc il y a toujours cette... ce n'est pas un mélange, c'est des propositions qui sont fonctionnelles, mais qui sont aussi... qui ont pour fonction aussi non seulement le scellement, mais aussi de proposer ce côté poétique des morceaux. Alors on passe à ce... C'est assez étrange pour moi de passer, c'est la première fois que je l'ai fait, de passer de la sculpture précédente à celle-là. Bon, avant tout, c'est une pièce qui s'intitule « Vent » et qui est composée de 6 cubes en béton blanc, béton régulier et béton de ciment fondu qui resserrent chacune un morceau de terre cuite, un fragment de colonne ou de quelque chose. Ces fragments que vous voyez, la terre cuite qui est colorée en rouge et en blanc, c'est les empreintes du vide de ce tronc. C'est la contreforme d'une forme négative. Donc le positif devient négatif et le négatif devient positif dans celle-là. C'est la masse qui cède sa place à l'air ou qui prête sa place à l'air. Alors cette composition... ici c'est aléatoire, ici c'est beaucoup plus organisé et régulier. Cette propre composition, c'est un extrait d'un fragment d'une branche que Dionysus avait portée lors d'une de ses victoires, représentée dans une mosaïque disparue à Chypre, à Paphos. Cette pièce, c'est l'une des plus simples que j'ai fait. Mais c'est l'une qui porte le titre le plus long. Elle s'appelle « Épaisseur du temps », entre parenthèses, « réversible et circulaire ». C'est aussi la pièce la plus méditerranéenne que j'ai faite. C'est une meule qui tient en équilibre avec un axe diagonal aux surfaces du sol. C'est une structure de ciment grillagé et sable avec... une tranche argileuse imbibée de huile d'olive et qui a foulé une surface d'un pavement en mosaïque mais sans figure et qui a gardé cette empreinte. C'est une sculpture éphémère, à chaque fois exposée, il faut refaire le même processus. Le processus fait partie de la présentation, le foulement, le tournement de cet axe diagonal. Laisse ses traces et laisse le temps la tâche de terminer cette sculpture. À partir de ce moment-là, ou cette époque-là, où j'ai commencé cette sculpture, le temps a pris une autre dimension. C'est-à-dire que les sculptures deviennent inachevées. Moi, je les sorte inachevées et je laisse la mission d'achèvement de ces sculptures au temps. Surtout en ce qui concerne les pièces éphémères et les pièces exposées à l'extérieur. Et depuis ce moment-là, je fais que ça. Là, je vais basculer sur deux expériences. À la fois le projet que j'entends faire en Espagne et à la fois la source de ce projet qui a démarré à New York lors d'une expérience de marche dans la ville de New York où j'ai vécu à peu près un an. Et vous le savez très bien peut-être que New York, elle est divisée, en tout cas Manhattan, elle est divisée en blocs. Il est très difficile de se perdre, même si tout se ressemble. Eh bien moi, je me suis perdu une fois, deux, trois, et après j'ai pris cette habitude de me perdre volontairement, et j'ai transformé cette expérience de marche dans un espace urbanisme aussi moderne que la ville de New York à une expérience un peu plus esthétique. Et j'ai décidé d'en faire un dessin. Ce dessin est représentatif d'un tracé d'un égarement qui s'est développé pour une sculpture par la suite. Donc ça, c'est les premiers tracés d'égarement. les lieux ne sont, sont irreconnaissables, méconnaissables, mais le principe de marché est, est le même. C'est-à-dire que je tourne avec un décalage d'onde ou un décalage de bloc à chaque fois vers les quatre positions, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et lors de ce principe, j'ai développé un dessin très labyrinthique qui ressemble plus à une sorte d'arabesque, mais c'est le tracé qui a été fait à New York, celui-là. À partir de ce dessin, je commençais à développer certaines recherches autour des motifs. Des motifs qui soient aussi complexes, mais qui sont composés d'un ou deux éléments géométriques extrêmement simples, celles des lignes. Je concerne surtout les motifs géométriques. Donc, ce dessin est une impression lithographique. À partir de laquelle j'ai réalisé une sculpture qui s'intitule Entre blocs. C'est une bronze, pierre noire et bitume. C'est une structure linéaire en perspective qui affleure presque ce chaos des pierres d'un lit mort ou d'un lit de rivière. Cette structure linéaire est la littérale ou l'honnête traduction, déploiement de ce dessin-là, qui, pour soi, propose, selon notre position par rapport à la sculpture, à cette sculpture, une vue différente, une vue complètement différente, puisque à un certain moment, on peut y voir une maquette d'une ville et à un certain moment, on peut y voir des éléments ornementaux. C'est exactement le principe à partir duquel je travaille ici en Espagne. C'est une structure que j'ai collée moi-même en bronze en deux segments, segment S et segment droit, avec plusieurs tailles, qui a été détachée à New York et rassemblée à Paris, encore une fois, pour qu'il prenne sa forme finale à Paris. Donc, pour avancer un peu plus sur le projet... Là, ce que j'entends faire en Espagne, c'est avant tout une étude analytique des formes géométriques, des ornementations en Andalousie. En Andalousie en général, mais un peu plus particulièrement à Cordoue, à Grenade, Sevilla, et il y a encore quelques édifices qui restent de l'époque nasride à Ronda Feniana. Ce qui m'intéresse dans ces recherches, c'est dans ces recherches analytiques de ces formes géométriques, c'est l'antithèse, c'est-à-dire l'ornementation, surtout de l'époque omeyyade et de l'époque nasride en Andalousie, a été tellement compliquée et tellement chargée, et ça correspond même à un principe tout à fait moderne des années 70 aux États-Unis, qui a été le full over, d'un bord à l'autre. Tout est chargé, tout est rempli. Alors, ce que moi je souhaite faire, ce n'est pas de prouver le contraire, c'est et ne pas de m'opposer à ces ornementations, c'est plutôt de les décortiquer un corps tout à fait géométrique pour le remonter autrement et le spatialiser. Donc, le principe de déploiement d'un dessin dans l'espace est, comme vous le voyez, exactement ce que je suis en train de faire. Alors, l'autre principe dont je parlais tout à l'heure, l'autre cheminement de travail dont je cherche, c'est le contrepoint d'un espace ornemental. Le contrepoint d'un espace ornemental, d'une manière à ce qu'on trouve un désordre, un chaos dans un espace aussi bien organisé qu'un espace ornemental, quelle que soit l'époque à laquelle il appartient. Un petit détail d'un point de vue qui représente typiquement un élément ornemental qui existe à l'Alhambra. C'est le premier triangle que vous voyez qui est en céramique. Et d'ailleurs, à partir de cet élément ornemental, il y a Maurice Hitcher qui a développé toute une trame des dessins qui sont tout à fait liés par principe à ces azulejos de la Enfin, c'est pas azulejos, c'est plus céramique. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est la sculpture la plus récente que j'ai fait à Paris l'année dernière, qui s'intitule Arythmie et qui est réalisée en plomb et en plâtre, résine et fibre de verre. Arythmie, c'est une sculpture de 3 mètres cubes d'une forme cubique de feuilles de plomb d'une épaisseur d'un millimètre. Ces cubes en plomb, aussi fines mais aussi résistants, le plomb reste un métal mais extrêmement malléable. Et c'est une matière avec laquelle j'aime beaucoup travailler. On subit des opérations très très violentes, très physiques et très gestuelles. Le processus de la réalisation de cette sculpture était à partir d'un tout petit texte que j'ai écrit, très répétitif dans le genre. C'était tourner, tordu, presser, détourner, détordu, dépresser, retourner, retordu, represser, retourner, re-retordu, re-represser, frapper, détourner, détordu, dépresser, et ainsi de suite. C'est exactement la manière très fidèle à la processus de la réalisation. Après l'avoir traité comme Munch l'a bien dit, traitement de cheval, ça a été exactement le cas. J'en ai pris une empreinte, c'est celle de la première pièce à droite, et une empreinte en plâtre dur, d'une épaisseur d'un centimètre et demi, donc ça reste fragile. La contradiction ici, c'est que le plâtre, il est beaucoup plus résistant que le plomb, qui est en métal, et beaucoup moins déchirable et beaucoup plus durable. La composition de ces trois morceaux annulent le côté géométrique tellement pur des trois cubes et proposent un contrepoint à une architecture intérieure très ornementée qui date du XVe siècle, qui a été retravaillée et revisitée plusieurs fois, celle du château de Saint-Ouen. Cette sculpture est liée actuellement, je vais la démonter la semaine prochaine. Je vous propose d'autres points de vue, de quelques détails pour rappeler que le plomb en tant que matériau, en tant que métal, pardon, et il est beaucoup plus adaptable à nos propres gestes, et dont le résultat de ces gestes est complètement absurde et ignoré, mais ça rappelle quand même quelques classicismes inattendus, tels les drapés qu'on voit un peu partout dans les lieux de culte, ou ailleurs, par ailleurs. Mais ça ne l'est pas, ça crée par la suite un chaos qui est issu d'une organisation mécanique tellement calculée et tout à fait pure. Voilà, je vais terminer sur cette pièce qui a été une commande de la ville de Saint-Ouen et qui était jusqu'à l'année dernière exposée dans un jardin qu'on a intitulé le jardin éphémère. Et par la suite, cette œuvre a été détruite. C'est une colonne qui s'appelle colonne entre parenthèses de la base au sommet, qui a été créée spécifiquement pour ce lieu, qui est les puces de Saint-Ouen, où l'auteur maximal des constructions autour de ce jardin ne dépasse pas le 2,50 m, voire 3 m. Cette colonne est faite de 4,50 m d'auteur et elle propose par cette entaille frontale de rentrer dedans. On y est emprisonné, on ne peut rien faire que rentrer, et ce vide nous propose l'écho à la fois parvenu depuis les puces mais aussi l'écho d'un air qui circule dans cet espace vide avec quelques arbres. Et les deux se mélangent et créent une sorte d'atmosphère extrêmement étrange, parfois gênante. Il est juste bien de mentionner qu'à l'auteur des yeux, quand on rentre, on est tout de suite face à une bande de mosaïque noire qui rappelle quelques traces de l'homme qui est intervenu sur ces troncs d'arbres, ces morceaux de troncs, parce que c'est pas un seul. Ces morceaux de troncs, ils sont variés. Il y a de l'élante, il y a de robinier, il y a de l'acacia, il y a de la platane, il y a de chêne. C'est très particulier comme histoire de ces de ces morceaux de tronc, parce que ça parvient, en fait, c'est récupéré au service municipal de la ville de Paris, et ça a été récupéré tous à la cimetière de Montmartre. Donc c'est un bois qui a bu de la terre mélangée avec les morts. Merci pour votre attention.